9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS à votre sexualité, à vos sexualités le mardi avec Nadia Elbouga. Bonjour Nadia.
Bonjour Philippe. Très belle correction.
Bonjour à tous. Je fais ce que je peux, je suis sous contrôle, je ne sais plus ce que
mon
je dis.
Mon toutes virus semaines, commence à opérer.
Voilà, mon disque, mon logiciel change toutes les semaines. Nadia Elbouga, vous êtes sage-femme et sexologue clinicienne. Avec nous, alors je suis gâté, hein, j'ai deux Nadia pour le prix d'une ce matin. Nadia Richard est là, bonjour Nadia.
Bonjour.
Avec une, c'est pas facile, avec deux, ça va être très difficile.
Ça va être rock'n'roll.
Vous êtes love coach, créatrice de la chaîne YouTube Utile Futile, une aventure que vous commencez il y a 10 ans sur YouTube. Et vous êtes là pour nous parler aujourd'hui de votre premier livre qui s'appelle Parlons Cash, les réponses à toutes les questions que tu te poses sur le sexe chez Larousse. Déjà, entre ce qui est utile et futile, où est-ce que vous placez le curseur?
Eh ben, je pense que ça dépend du point de vue duquel on se place, tout simplement. Très souvent, quand je dis, je parle d'histoire d'amour sur Internet, les gens me disent, j'ai deux réactions. Soit les gens me disent, oh là là, mais c'est super, mais ça doit aider des jeunes ou des moins jeunes. Et il y a d'autres gens qui me font, ouais, d'accord, c'est toujours mieux que le make-up. Et, en fait, il y a des gens qui s'imaginent que c'est futile, alors que, ben, moi, en tout cas, j'ai l'impression que y a pas de vie heureuse sans amour. Donc, ça dépend du point de vue.
Mais en fait, vous sélectionnez les postes qui sont utiles ou futiles? Vous mettez utile ou futile, non?
Non, pas du tout.
C'est toujours utile ou futile ou utile et futile.
Les deux. C'est d'accord. Toujours les deux en même temps, en fait. Hein.
Bien. Alors, la question que tout le monde se pose à cette période de l'année, c'est est-ce qu'on va être glow-up même si on ne part pas en vacances cette année?
Alors, si je puis me permettre, on dit est-ce qu'on va glow-up?
Ah, on va glow-up.
Voilà.
Non, mais attendez, on va glow-up. Même si on part pas en vacances.
Eh bien, oui, bien sûr, il y a plein de façons de glow up, sans partir en vacances.
Pour les vieux, glow up.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire glow up?
C'est très important. Moi, j'ai cru que c'était une pratique sexuelle que je ne connaissais pas. Alors, je me suis dit glow up.
C'est peut-être le son.
Avec le son, je me suis dit c'est.
Gloop.
Gloop.
Mais alors non. Glow up, c'est l'art d'évoluer vers une meilleure version de soi-même. Tout simplement, qu'elle soit physique, émotionnelle, intellectuelle, sportive, enfin, ça va être physique, bref. Donc oui, bien sûr, on peut évidemment glow up sans partir en vacances.
D'accord.
En lisant des livres, par exemple, pourquoi pas?
Oui.
Donc, elle est forte. Hein.
Est-ce que vous allez profiter de l'été pour glow up? Donc oui.
Est-ce que moi, je vais profiter de l'été pour glow up? Mais je profite de chaque jour pour glow up.
Vous connaissiez Nadia ou il n'y a que moi qui ne connaissais pas?
Bah moi je connais parce que j'ai une fille de 13 ans quand même.
Ah oui.
Donc voilà.
Elle glow up à 13 ans.
Ah voilà. Bah le jour où elle m'a sorti ça, je me suis dit tu peux me parler en français, Inaya.
Cela dit, les jeunes parlent anglais de nos jours, c'est beau.
Ouais, c'est ça. On va dire ça comme ça.
Bon, au moins j'ai appris des choses. Alors il y a pas de tabou dans les questions que vous posez dans votre livre.
Non. Enfin en tout cas le moins possible.
Je sais pas. Le plus tabou c'est quoi? Moi, il y a des passages quand même que je dirais pas à l'antenne hein, aujourd'hui.
Ouais, bah moi je vais les dire du coup.
Non, il y aura des bips.
Non, il y a pas de bips.
Il y a une question qui fait tout le temps tiquer les gens quand je leur montre mon bouquin. Ils l'ouvrent et ils tombent toujours sur celle-là. C'est que faire du sperme si on ne l'avale pas? Alors du coup, ils me disent bah dis donc.
Attendez, non, Nadia, faut prévenir avant. Là, on met le bip. Et là, on a perdu tout le monde.
Écoutez, vous avez posé la question, donc.
On me demande quelle est la question la plus taboue, je réponds. Et c'est pour ça que on m'a demandé à partir de quel âge ce bouquin peut être offert ou lu. Et moi, je dis, honnêtement, à partir de 10-11 ans, je trouve que c'est carrément faire, quoi, ça se fait. Et beaucoup de gens me disent, mais comment? Mais attends, mais t'as vu ce genre de questions? Alors oui, je suis d'accord, c'est vrai que nous, même en lisant ce genre de questions, ça nous choque un peu, mais il ne faut pas croire, enfin, les jeunes s'intéressent à la sexualité et ils sont allés sur tous les sites porno possibles et inimaginables, donc je ne pense pas qu'ils soient choqués par ce genre de questions.
D'accord. Mais là, vous avez choqué des gens. Là, je peux vous dire que
il ne faut pas être choqué, c'est la nature en fait.
Vous ne m'avez pas perdu puisque j'avais répété avec évidemment. Kim ce matin les questions.
Évidemment, je vous taquine.
Non, mais j'avais fait valider par Kim les questions, il m'avait dit non.
En fait, ce qu'elle nous dit clairement, Nadia, par exemple sur ce type de questions-là, c'est que arrêtons l'hypocrisie en fait, arrêtons les hypocrisies. C'est-à-dire que finalement, alors peut-être que cette question ne se serait pas posée pour nos générations. Donc les plus de 40 ans parce que on n'avait pas un accès direct à certaines images, à certaines choses et c'est peut-être pas utile d'avoir cette question-là à notre époque. En revanche, pour les jeunes de maintenant, si vous voulez, ils vous la poseront pas frontalement. Par contre, évidemment que ça leur a traversé la tête ou qu'ils ont visualisé.
Ou même, surtout, ils font face à une sorte de pression. Parce que moi, je vois énormément de questions. Pour le coup, j'ai beaucoup de jeunes qui m'envoient leurs questions, donc sexo, entre autres. Et c'est une question, c'est pas genre, je vais sucer mon mec, ça va être merveilleux. Non, c'est, est-ce que je suis obligée de le faire? J'ai peur. Et en fait, la question, dans que faire du sperme si je l'avale pas, il y a aussi juste avant, est-ce que je suis obligée d'avaler? Mais en fait, ce sont des gens qui se posent vraiment la question et qui ont peur de se dire, mais je vais être coincée, mon mec il va me larguer parce que je veux pas le faire. Alors qu'en fait, non, tu as évidemment le droit de pas le faire. En revanche, tu as le droit de le faire et c'est ok.
Enfin, ce qui est intéressant, c'est à la fois la question et la réponse que vous donnez aussi.
Ouais. Et moi, la question pour le coup que je me suis posée en lisant votre livre, c'est finalement, avez-vous bien défini la tranche d'âge? Parce que en réalité, ce livre-là peut aisément s'adresser à des adultes.
Alors en fait, à aucun moment j'écris adolescent dans ce livre. C'est-à-dire que même ma chaîne YouTube, très souvent les gens me demandent et me disent « Ah, mais ça doit être des ados qui te suivent ». Effectivement, j'ai une grosse base d'adolescents, mais en fait, l'amour, c'est intemporel.
Sauf que Gertrude, on imagine qu'elle n'est pas adolescente.
Gertrude et Germaine.
Gertrude, Germaine, Alphonse, ce sont les noms pour anonymiser les
personnes. Ah, d'accord. Parce que je me suis dit, mais ils ont quel âge, Gertrude?
Non,
elle a fermé la boutique.
J'ai choisi des ah oui. Voilà. Je suis mamie Nadia, c'est pour mes copines, quoi, qui s'appellent Gertrude, Germaine, tout ça. C'est pour la petite blague.
Petit décalage.
Mais effectivement, il y a pas d'âge, en fait, pour avoir un chagrin d'amour. Il y a pas d'âge pour chercher l'amour. Très souvent, j'ai des questions de gens qui me disent, bah voilà, j'ai 30 ans, j'ai toujours jamais été en couple, ou même j'ai jamais fait ma première fois. Et je dis, ben, il y a pas de souci, en fait, c'est pas grave. Et si t'as envie d'évoluer sur ce point-là, c'est faisable, quoi. Donc, j'ai pas défini de tranche d'âge, en fait. Elle se définit par elle-même parce que les gens se disent, les histoires d'amour, c'est un problème d'adolescent. Mais moi, j'ai rien dit du tout.
Alors, effectivement, vous n'avez pas défini de tranche d'âge, mais dans vos vidéos, enfin, quand on vous suit sur les réseaux, on peut de facto vous accoler l'étiquette. Finalement, vous seriez, d'ailleurs c'est une question, est-ce que vous seriez la Kev Adams Non mais c'est une réelle question hein, de la sexo, on va dire, pour les jeunes, c'est-à-dire finalement la fausse jeune.
J'aimerais bien être identifiée comme telle parce que ben c'est le travail que je fais, donc moi ce serait juste un honneur qu'on me dise oh là là, je suis la référence en termes d'amour et de sexualité pour les ados ou ouais, même juste pour les ados. Maintenant, j'ai pas cette
prétention.
Merci, j'ai pas cette prétention. Ce qui est sûr, c'est que je fais de mon mieux pour essayer de faire en sorte qu'ils se sentent bien dans leur vie amoureuse, sexuelle, et juste dans leur vie dans leur vie avec les autres, quoi, tout court.
Dans leur relation.
Dans leur relation. Merci.
Je trouve pas le mot amoureuse.
Mais vous êtes une pionnière, hein, d'ailleurs, sur YouTube, on peut dire.
Je fais partie des premiers, oui.
De la première génération des YouTubeurs.
Et bien, la deuxième, en fait, parce qu'il y avait donc Norman, Cyprien, Hugo Toutseul, qui étaient les Prums. Et après, il y a mes amis et moi qui avions lancé nos chaînes aussi, il y a 10 ans maintenant, déjà.
La question de la normalité n'existe pas en amour. Et pourtant, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que je suis normal si je n'ai pas fait ça? C'est vraiment une question qui traverse les gens, la norme.
Oui. Ben, surtout quand on est ado, pour le coup, je pense, parce que malgré tout, mon livre s'adresse aussi aux ados. La normalité, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est la majorité, finalement. Est-ce que je suis normale? C'est est-ce que je fais partie de la majorité? Et c'est une sorte de curseur face auquel on se compare pour savoir si on fait les choses bien ou pas. Et c'est très important quand on est ado de se dire, ben ouais, je fais les choses bien, parce qu'on peut se cacher derrière ça. On est si sensible à ce moment-là que du coup, on se demande si on est normal. Et il y a toujours un moment où on se rend compte que du coup, on n'est pas dans la norme. Typiquement, quelqu'un qui me dit, ben, j'ai 27 ans, j'ai jamais été en couple, j'ai jamais fait ma première fois. Effectivement, on n'est plus dans la norme, entre guillemets.
Mais c'est 27 ans, c'est tout?
Ou même 35 ou
oui.
Mais non, mais je sais pas quelle est la moyenne d'âge pour rentrer dans sa vie sexuelle, mais il me semble que c'est beaucoup plus tôt. Ça
17
doit être
ans.
17 ans, voilà. Merci. Donc évidemment, quand on arrive 10 ans plus tard et qu'on a toujours rien fait, on se dit bon bah je suis pas normal. Non. Et puis surtout, on s'en fout de la normalité. Je dis très souvent que on a chacun son rythme et c'est important de le suivre. Maintenant, c'est sûr que si tu te rends compte que 10 ans plus tard, t'as tout fait pour que ça arrive et que ça n'arrive pas, là il y a peut-être un problème. Et ouais, peut-être qu'on peut en parler effectivement.
C'est vrai que cette question de normes, elle est importante à redéfinir, en fait. Et quand on, comme vous le faites très bien dans votre livre, on donne des explications, des conseils, des tips. Mm-hmm. Pour le coup, remettre la norme dans un contexte est intéressant. Là, en l'occurrence, vous avez parlé de la norme statistique. Mm-hmm. Après, il y a la norme biologique, il y a la norme sociale. C'est toujours intéressant de resituer la norme. Et la norme en France, c'est pas forcément la norme canadienne, pas la norme marocaine. Donc voilà, c'est intéressant de se dire que finalement, c'est quelque chose qui varie, en fait, qui est mobile aussi. Mmh. Et surtout,
qui évolue avec le temps.
Et surtout, qui est défini par nous. En fait, nous toutes et nous tous, c'est nous qui définissons la norme. Donc à titre collectif, donc on peut aussi la définir à titre individuel, finalement.
Nadia ?
Oui, je suis assez d'accord. Et en fait, c'est nous qui la créons et c'est nous qui nous mettons la pression autour de cette règle-là. Ouais. On n'a pas besoin de toujours se référer aux autres, à l'avis des autres qui revient énormément tout le temps. Qu'est-ce que les autres font penser ? On s'en fout. Mmh. On s'en fout. À partir du moment où toi, tu avances et que tu es épanoui dans ce que tu fais, pas de problème.
Tout à fait. Et d'ailleurs, il faudrait bannir le terme « normal ». Parce que c'est « normal » par rapport à quoi ? C'est toujours la question. Mmh. Quand on parle, par exemple, des personnes en situation de handicap, on pourrait, comme ça, de facto, dire qu'elles sont anormales par rapport à la majorité. En fin de compte, non. Est-ce finalement pas la société qui est anormale parce qu'elle ne s'adapte pas à la situation de ces personnes? Donc, vous voyez, quand on renverse les choses, on les voit différemment.
C'est une question de référentiel, quoi.
Exactement. Mmh, exactement, ouais.
Mais quand on est sous le regard des autres et qu'on vit sous le regard des autres, c'est important de pouvoir se situer.
C'est vrai, bien sûr, c'est essentiel. Et c'est comme ça qu'on grandit, d'ailleurs. Un enfant, comment il s'éduque tout seul en se comparant à ce que font ses parents, à ce que font ses copains. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il apprend, qu'il chope de chaque côté des choses pour évoluer tout seul. Donc c'est normal, c'est nécessaire, mais il ne faut pas en abuser.
Bon, en tout cas, vous tenez la promesse du titre de votre livre, hein, puisque vous avez parlé cash. Votre livre s'appelle « Parlons cash ». C'est l'autre Nadia de l'émission aujourd'hui, Nadia Richard. Les réponses à toutes les questions que tu te poses sur le sexe, on les posera jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Avec deux Nadia, heureusement elles ont des voix qu'on ne peut pas confondre ce matin avec nous ce matin, Nadia El Bouga qui est là bien sûr et avec qui nous parlons de sexualité dans cette émission tous les mardis, et Nadia Richard qui est notre invitée, qui est love coach et qui est créatrice d'une chaîne YouTube, peut-être que vous allez googler en même temps que vous écoutez l'émission, qui s'appelle Utile Futile et qui publie un livre qui s'appelle Parlons Cash, les réponses à toutes les questions que tu te poses sur le sexe. L'éditeur c'est Larousse. Quelle est la seule chose qui compte en matière de sexualité ?
Le consentement, sans aucune hésitation.
C'est vraiment c'est la chose qui traverse votre livre, ouais, mais vraiment c'est complètement
important.
Ça.
C'est tellement important. On voit notamment en ce moment tellement d'histoires, malheureusement, d'agressions sexuelles, de viols et j'en passe. Tout ça, c'est pourquoi ? Parce qu'on a éduqué personne, enfin malheureusement trop peu les hommes, sur la question du consentement. Et attention, hein, y a aussi certaines femmes, mais bon. On va pas rentrer dans ce débat-là. Donc oui, évidemment, c'est le consentement qui prime, parce que à partir du moment où on en a envie tous les deux, il y a plus d'autres règles.
On va dire le consentement des deux partenaires pour
consentement mutuel.
Voilà, pour froisser personne.
À partir du moment où on en a envie et qu'on l'a exprimé.
Exactement, parce qu'on peut pas partir du principe que si l'autre n'a rien dit, on pensait que c'est oui. Non, tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. Donc il faut attendre le oui. C'est très important.
Qui ne dit mot ne consent pas.
Voilà, absolument.
Alors, quels sont les trois commandements de la séduction ? Ça, c'est important. Notez.
Les trois commandements, c'est une interro parce que je les ai écrits dans le livre.
D'accord, ok. Non, pour savoir ce qui marche à tous les coups pour la séduction.
Alors, je pense qu'il n'y a rien qui marche à tous les coups parce qu'il ne faut pas se placer à partir du moment où on est en face d'un être humain, mais à partir du moment où on se place en face de telle ou telle personnalité. Typiquement, si on veut draguer un timide ou une timide, on ne va pas du tout s'y prendre de la même façon que si on veut draguer un ou une introverti. Parce que le ou la timide va avoir vraiment besoin de pudeur, de calme, de temps, alors qu'un introverti ou une introvertie, potentiellement, va aimer qu'on lui fasse du gros rentre dedans, qu'on fasse des grosses allusions devant tout le monde pour le ou la faire mousser un petit peu. Donc, ce qui fonctionne, en tout cas, à tous les cas, c'est de s'adapter à la personne qui est en face de nous, de capter sa sensibilité et de pianoter dessus. Je pense que c'est ça qui fonctionne.
Et est-ce que vous avez une définition de la séduction ?
Alors oui, c'est une phrase que j'utilise beaucoup dans mes vidéos. C'est l'art de faire comprendre à l'autre qu'il ou elle te plaît. Maintenant, de quelle façon, encore une fois, ça dépend de sa personnalité.
Et vous avez une phrase que j'aime beaucoup, c'est ne donne pas tout de suite.
Oui, c'est très important.
Parce que tout le monde est très emballé au départ, voilà, il faut tout donner.
Mais c'est ça. En fait, je pense que si on donne tout de suite, tout s'essouffle très vite. C'est comme si on avait super faim et qu'on mangeait un maxi domac d'un coup. Bon, ben après, on n'en peut plus, on a un peu la gerbe, on n'est pas bien. Alors que si on a vraiment très très faim, mais qu'on arrive dans un super restaurant et on a une petite entrée toute légère, et là on est content, on commence à manger, c'est bon. Puis après, on sait qu'il y a le plat qui va arriver, mais on attend un peu parce qu'on sait qu'on est dans un beau restaurant et qu'on attend un petit peu. En attendant, on prend un petit verre, on discute un petit peu et hop, le plat arrive. Et puis après, on sait encore qu'il va y avoir le dessert. Bref, on prend son temps et on en profite, on savoure tout ça. Et je pense que c'est pareil en amour et même en amitié d'ailleurs. Tout donner tout de suite, finalement, ça n'a plus de valeur si on donne tout d'un coup, parce que si je te donne tout de suite, ça veut dire que demain je donne tout de suite à n'importe qui. Alors que si je prends mon temps, ben, ça prend de la valeur, parce que finalement il faut gagner toutes ces choses personnelles que je vais te livrer, et je pense que c'est très important.
Justement, est-ce que ce timing, enfin cette précipitation ou cette lenteur, est-ce qu'on peut dire qu'elle est liée à la confiance en soi? Une personne qui aurait moins confiance en elle serait-elle plus prompte à tout donner, justement?
Oui, je pense. Spontanément, on pourrait se dire que quelqu'un qui n'a pas confiance en soi ne va pas faire confiance aux autres et du coup va être un petit peu en retrait. Alors que je pense effectivement que c'est plutôt l'inverse. Quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, typiquement, va se dire « Oh là là, mais il ou elle ne m'a pas répondu depuis 2 heures. Je vais renvoyer un message, comme ça je suis sûre, je vais me rassurer. » En fait, en donnant tout de suite, les gens se rassurent. Ils se disent « Ok, comme ça c'est sûr, je vais me rassurer sur le fait que cette personne m'aime bien. » Alors qu'en fait, pas forcément. Si tu donnes tout de suite, la personne, elle va saturer, et si tu te fais pas un tout petit peu désirer, c'est dans ce sens-là qu'on dit il faut se faire désirer. C'est dans le sens où il ne faut pas tout donner tout de suite.
Quel est le conseil que vous avez donné et dont vous êtes la plus fière? En disant là, c'est vraiment un truc déposé, c'est Nadia.
J'ai plein de petites phrases d'Instagram que j'aime beaucoup. Je peux pas dire que je sois fière de quelques conseils que je donne, parce que je le fais avec plaisir et pas par fierté, mais celui qui fonctionne très très souvent, c'est quand même tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. Typiquement, si tu proposes à quelqu'un d'aller boire un verre et qu'il te dit « Ah ouais, grave, je te redis ça », si t'as pas une date, une heure, un lieu, c'est que c'est non, en fait. Tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. Pareil pour le sexe, pareil pour « Est-ce que tu veux sortir avec moi ?» pour tout ça, quoi.
Retenez ça. Hein. Sinon, bientôt, Inch'Allah, c'est pareil. C'est pas oui.
Voilà, ça fonctionne pas.
Ne pensez pas que c'est oui.
La preuve, hein? Quand vous dites Inch'Allah à un enfant, il vous dit d'accord. Mais Inch'Allah oui ou Inch'Allah non? Donc, tout est dit.
Alors, vous abordez vraiment tous les sujets. Alors, il y a le sujet pour Nadia El Bouga, c'est quoi la sexualité? La sexualité.
Oui, il attend que je tique, en fait.
Non, c'est pas drôle. Si vous ne tiquez pas...
Non, bien sûr, évidemment. Non. Alors oui. Il y a deux choses. J'ai adoré votre livre, évidemment.
Merci.
Mais il y a deux choses, en fait, où il serait intéressant peut-être de revoir les termes utilisés. C'est, pour moi, il n'y a pas une sexualité, mais des sexualités.
Donc,
c'est un terme pluriel. Quand on parle de la sexualité, ça voudrait dire que finalement, on revient sur cette question norme. La sexualité, c'est la sexualité finalement générale, celle qui est communément admise par la société, celle qui est acceptée, donc clairement l'hétéronormativité en fait. Donc est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux, d'autant plus que vous écrivez en écriture inclusive, donc c'est-à-dire que vous êtes en plus dans votre démarche totalement inclusive, parler plutôt des sexualités pour que tout le monde s'y retrouve?
Eh bien... je ne savais pas qu'on parlait de sexualité au pluriel. Et si j'avais
moi non
su...
plus. Alors figurez-vous, moi non plus. Je l'ai appris avec Nadia.
D'accord.
Parce que elle a mis un S à sexualité.
C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en psychologie, etc. Ou c'est
non du tout. En fait, c'est si vous voulez, c'est un processus de pensée qui déconstruit finalement quand on parle. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est justement symptomatique de la norme sociétale.
Ouais.
On nous a, et ça met en lumière la performativité du langage, c'est-à-dire qu'on nous a toujours parlé de la sexualité, donc évidemment implicitement...
Qui renvoie aux hétéros.
qui renvoie à l'hétérosexualité.
D'accord,
clairement.
Ok.
Donc ça veut dire qu'on laisse sur le banc, en fait, finalement, toutes les personnes qui ne se retrouvent pas dans l'hétérosexualité, et plus largement que l'hétérosexualité, l'hétéronormativité. Ouais. C'est-à-dire tout ce qui est en lien avec l'hétérosexualité.
Alors, pour le coup, c'est une chose à laquelle je fais très attention, parce qu'au début de ma chaîne YouTube Utile Futile, on m'a beaucoup dit « Ah, mais Nadia, tes vidéos, elles sont hétéronormées. » J'ai découvert ce mot, et je me suis dit « Waouh, effectivement !» Et parce que je disais toujours « il », je disais pas « il » ou « elle », je disais toujours « il » pour une fille, et puis « elle » pour un garçon, et je me suis dit « Waouh, j'avoue, ça va pas du tout. » Dans mon bouquin, lorsque je parle de la sexualité, je parle de sa propre sexualité. Donc, évidemment, effectivement, dans ma démarche, on se doute que à aucun moment, je cherche à être...
Que vous êtes inclusive. Oui. Voilà. On l'entend, ça respire, ça transpire.
Voilà. Mais je savais pas qu'il fallait faire attention à ce terme-là, et j'y ferai attention pour mes prochaines vidéos et mes prochains écrits. Mais en tout cas, c'était l'idée de parler des sexualités, évidemment.
Ouais. Très bien, très bien. Je voulais juste que vous le formuliez. Et il a lancé la perche parce que effectivement, dans votre livre, vous êtes inclusive.
Par contre, il y a la sexualité.
Par contre, voilà, il y a l'autre terme où là, à chaque fois que je le lisais,
c'est préliminaire.
Ah. Les préliminaires.
Ouais. En fait, préliminaires. Ouais. Alors ça, ce serait intéressant que vous fassiez une vidéo là-dessus. Vous parlez encore de préliminaires?
Oui, oui. Alors pourquoi il faut pas...
Ce n'est pas grave. C'est
pas une hétéro.
Ça va bien se passer.
Voilà, non. Alors justement, pourquoi vous parlez de préliminaires?
Alors, je parle de préliminaires parce que jusqu'à maintenant, on parle de première fois en imaginant que la première fois, c'est la première pénétration. Donc là-dessus, pour le coup, je souligne vraiment que l'acte sexuel ne se résume pas à la pénétration, etc. Et je sais aussi que nos jeunes, pour le coup, et puis moi-même, on parle de tout ce qui n'est pas la pénétration, c'est vrai, comme des préliminaires. Donc c'est encore une erreur de ma part. Merci de le souligner.
Pas une erreur, c'est juste que vous êtes ancré dans une société, effectivement. Et quand on parle de préliminaires, ça veut dire qu'effectivement, il y a un liminaire qui est la pénétration, et finalement, tout serait pénétrocentré.
C'est vrai.
Donc, tout tournerait autour de cet axe-là. Alors que finalement, si on considère... Parce qu'en plus, dans vos propos, vous le dites.
Oui.
Ça transpire hors préliminaire.
C'est une erreur de vocabulaire, en fait, littéralement.
C'est ça, parce que finalement, vous dites bien que un premier baiser, on peut considérer ça déjà comme une entrée dans la sexualité, dans les sexualités. Donc, parler de préliminaire, finalement, ça n'a pas de sens. Et en plus, ça induit, à mon sens, une angoisse de performance, parce que ça voudrait dire que on ne parle pas de rapport, d'acte, de relation sexuelle si finalement il n'y a pas de pénétration, parce que c'est la question centrale.
Bien
quand
sûr.
Nos jeunes parlent de première fois, quand on les questionne, ils ne parlent pas des premiers émois, des premiers flirts, ils parlent de la pénétration.
Et ben merci de souligner ce point, parce que j'y avais juste jamais pensé, tout en y pensant en même temps. C'est juste effectivement mon vocabulaire qui n'était pas adapté. Et voilà.
Alors rendez-vous à la prochaine vidéo.
Mais grave, rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci, merci pour ce point.
Et là, votre fan base va dire, mais on comprend plus ce que tu dis, mais qu'est-ce que tu racontes?
Non.
Qu'est-ce qui t'est arrivé?
L'autre Nadia sort de ce corps.
Ils sont très friands de ces choses-là. Ouais. Donc merci de le souligner.
Et surtout que c'est important, parce qu'en fait, quand on parle des sexualités et surtout, alors pareil, pénétration, pas pénétration, finalement, la véritable question, et c'est tout le sens de votre livre, c'est pas tant ça en fait, c'est finalement comment rentrer en relation avec l'autre. Hein. C'est tout ce que vous dites du début jusqu'à la fin. Donc parler de préliminaire, finalement, ça voudrait dire toujours tourner autour de la même chose, alors que même certains garçons ne sont pas forcément focus sur la pénétration.
Ah oui, bien sûr.
Et plutôt sur comment je vais la séduire, comment je vais m'y prendre au mieux, comment je vais me sentir bien, enfin tout ce que vous vous abordez dans votre livre.
Et alors du coup, à moi de vous poser une question, comment il faut appeler finalement tout ça? Donc ne pas différencier donc l'acte, encore, je fais l'erreur, quoi. Ne pas différencier donc la pénétration et ce que j'appelle évidemment les préliminaires. Donc comment on dit, on parle uniquement d'actes sexuels au pluriel?
Alors moi je fais la différence entre un acte sexuel, donc acte ou rapport sexuel, et une relation sexuelle.
D'accord.
Donc là vous parlez de one shot, et vous parlez de relation d'un soir, et d'avoir juste une relation sexuelle sans forcément de lien affectif ou amoureux. Moi je mettrais plutôt ça dans la catégorie acte rapport sexuel. C'est-à-dire que là on est plutôt dans le côté, on va dire, technique de la sexualité et du sexe. En revanche, quand on parle de relation, et d'ailleurs on peut être en relation avec quelqu'un même dans une relation d'un soir, finalement.
Oui.
Moi je parle de relation sexuelle, c'est-à-dire à partir du moment où on entre en contact finalement avec l'autre dans une intentionnalité sexuelle, bah, en fait c'est tout ça la sexualité au final.
Oui. Okay.
Donc il n'y a pas de préliminaire ou de liminaire ou de post-liminaire en fait, c'est... Tout ça est une relation sexuelle au final.
Ouais.
Donc, et c'est très important à mon sens, parce qu'on sait la force des mots. Hein,
c'est clair.
C'est la force des mots. Et donc, parler de pénétration, déjà, ça met une position de dominant et de dominé. D'ailleurs, on parle de pénétrant, pénétré. Donc, oui. Ça voudrait dire qu'il y a un passif, un actif. Et d'ailleurs, même dans les relations sexuelles, on va prendre l'exemple des gays. Très souvent, on dit mais qui fait l'homme, qui fait la femme.
Quel
donc, ça veut dire que voilà, déjà, on place une hiérarchie en fait dans cet acte-là. Donc c'est pas anodin.
Je suis d'accord.
Et puis il y a la circlusion.
La circlusion.
Alors c'est quoi ça, c'est la circlusion, c'est après la pub.
Après la pub, voilà.
Après la pub, la circlusion, parce que sinon on va pas s'en sortir. Nadia Richard est venue nous parler de Parlons Cash, c'est son livre, les réponses à toutes les questions que tu te poses sur le sexe aux éditions Larousse.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et on apprend des choses hein, sur Mozart. Mozart ne savait pas jouer du piano avant d'avoir essayé son apprentissage et pourtant il s'est révélé un grand maître.
Ah ouais, cet exemple, il est juste génial.
Merveilleux.
Ouais, franchement, c'est un très bel exemple que vous donnez.
Voilà, Nadia Bouga est en train de parler. Et puis avec nous, il y a Nadia Richard également qui est love coach et qui vient de nous parler de son livre qui vient de sortir qui s'appelle Parlons Cash, les réponses à toutes les questions que tu te poses sur le sexe. À noter que vous avez une chaîne YouTube hein, qui s'appelle Utile Futile.
C'est
vous
ça.
Pouvez googler en même temps que vous écoutez cette émission. Vous nous avez, Nadia, appâté avant la pub et parlé de ce sujet qui s'appelle la circlusion.
Oui. En fait, puisque la question de Nadia est très pertinente, de quoi devons-nous parler alors, ou quels mots pouvons-nous utiliser finalement si on ne parle pas de pénétration ou de préliminaire. Alors évidemment, on peut continuer de parler de pénétration. Moi, je préfère intromission, parce que du coup, dans intromission, il n'y a pas le mouvement. On ne définit pas qui fait le mouvement.
D'accord.
Quand on parle de pénétration, c'est l'objet qui va s'introduire, finalement, qui est actif.
Okay.
La circlusion, c'est l'inverse. C'est-à-dire que finalement, quand on pénètre, c'est le pénétrant qui est dans le pénétré. Alors que quand on circule, c'est ce qui est censé être le pénétré ou la pénétrée qui va aller encercler le pénétrant, entre guillemets.
Okay.
Donc, c'est-à-dire que finalement, ce qui est intéressant quand on parle d'intromission, il y a le mouvement des deux. Il y a le mouvement de la personne qui va introduire son pénis ou un objet, un sextoy ou autre, et l'autre personne également. Donc, okay. C'est pas un terme que j'ai inventé, hein, la circlusion. C'est un terme que Adam Sack a mis à l'ordre du jour, parce que c'est un terme français. Hein.
Schoon, Adam.
Alors, elle est philosophe, et donc elle a, si vous voulez, conceptualisé en fait cette notion de circlusion pour que l'on puisse changer les paradigmes et ne plus être dans une posture de dominant, dominé, inférieur ou supérieur, mais on est tous les deux, il ou elle, ou il ou elle, en fait, dans l'action de. L'intromission de ce que l'on veut, mais en tout cas dans l'action ensemble. Et c'est très très important, parce qu'on sort du rapport de domination, et on le sait, que on le dit depuis 9 ans maintenant dans notre émission, le patriarcat ne s'arrête pas à la porte de la chambre à coucher, on le sait très bien. Voilà. Il est sous la couette avec nous.
Oh oui.
Et ça d'ailleurs vous le dites.
D'ailleurs,
aussi.
Nous avons parlé de la circlusion dans une émission sous la couette.
Oui.
Souvenez-vous.
Tout à fait.
Nadia. Alors, Nadia, l'autre Nadia, Nadia Richard, vous avez un test pour savoir si on a un bon coup.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il faut se poser comme question pour savoir si on a un bon coup?
Alors, je ne sais plus exactement ce que j'ai écrit dans le bouquin.
Mais vous n'êtes pas obligé de nous dire ce qu'il y a dans le bouquin.
Ah,
mais,
bah oui.
Mais comme vous savez, on s'interroge toujours pour savoir si, au cas où, on est des bons coups.
Alors, à mon sens, pour savoir si on est un bon coup, il faut se questionner sur est-ce qu'on est à l'écoute de l'autre? Est-ce qu'on est à l'écoute de son propre corps aussi? Parce qu'on est, encore une fois, plein d'idées reçues sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'on doit faire, alors que si nous, on n'aime pas ça, non. Typiquement, un homme qui ne va pas aimer la fellation, s'il n'aime pas, il n'aime pas. Et il ne faut pas qu'il se force, parce que les hommes sont censés aimer. Et de la même façon, il ne faut pas non plus insister quand l'autre dit, écoute, non, je n'aime pas ça. Non, toutes les femmes n'aiment pas qu'on leur lèche les seins. Si on tombe sur quelqu'un qui n'aime pas ça, il ne faut pas insister.
Ouais.
Donc, pour moi, c'est ça... le secret d'être un bon coup, c'est être à l'écoute de l'autre et avoir un petit peu confiance en soi aussi. Parce que ben, si on manque trop de confiance en soi, malheureusement, pareil, hein, on s'interdit de faire des choses parce qu'on y colle des images. On se dit, ah ben tiens, si je fais ça ou si je fais pas ça, je vais passer pour, on va penser que. Et voilà, donc se libérer de tout ça et être à l'écoute de soi et de l'autre, je pense que c'est la base de la base.
Ouais, moi, c'est ce que j'ai adoré dans le livre de Nadia, en fait. C'est-à-dire que, je pense que c'est la seule qui fait ça, du dev perso pour les jeunes. Mais façon, affectivo-sexuelle. C'est-à-dire que les jeunes, en règle générale, on leur donne des conseils un peu tout préparé, tout fait, avec une posture d'adulte. Là, du coup, moi, ce que j'ai adoré, c'est que vous vous mettez à leur niveau, mais sans les infantiliser, et vous leur apportez justement des outils de dev perso, mais accessibles. Et ça, je trouve ça chouette. Vraiment.
C'est très important pour moi. Je me suis rendu compte, parce que j'ai une personnalité un peu rentre dedans, et souvent les gens aiment bien ça dans mes vidéos, dans mon livre ou autre. Et je me suis rendu compte que parfois je donnais des conseils, et à la fin je disais, mais ça va aller, tu vas pouvoir réaliser ce que je te conseille de faire. Et à la fin, on me disait, bah non, j'oserais jamais. Et je me suis dit, mais si tu n'oses pas, en fait, ça veut dire que je viens de passer une demi-heure à parler dans le vent, parce que moi, mon but, c'est que tu oses faire ce que je te dis. Et du coup, je me suis rendu compte que parfois, les gens ont besoin d'utiliser un chemin un petit peu plus lent, ou alors de se taper la tête contre le mur, parce que parfois, typiquement, quand le mec ou la meuf a trompé 4 fois l'autre et que l'autre continue d'y retourner, je dis, bon, bah, écoute, si t'as besoin de te taper la tête 1/5 fois contre le mur, et ben vas-y. Par contre, après, essaie de te rendre compte que cette fois-ci, c'est terminé. On va chacun, encore une fois, à notre rythme. On a chacun nos armes, elles sont toutes différentes, et oui, effectivement, il faut se mettre à la hauteur de chacun pour comprendre. Je pense que c'est la clé d'un bon conseil, c'est de faire en sorte que l'autre puisse l'appliquer. Sinon, ça sert à rien.
Tout à fait.
Alors, vous êtes devenue maman.
Oui.
Récemment. Alors là aussi, c'est pas comme dans les films ni dans les livres.
Non.
Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise avant? Ouais, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir?
Alors attention, je vais pas être glamour non plus, hein, parce que en réalité, je me suis énormément renseignée sur la vie de maman, sur toutes les petites choses qu'on nous dit pas, la montée de lait, le fait que le ventre ne redevient pas comme ça aussi plat qu'avant. Mais
moi,
non.
Rachida Dati, elle m'a dit, t'accouches.
Bah oui.
Une demi-heure après, t'es dans ton slim.
Mais j'aimerais bien le numéro de son chirurgien.
Et dans des loups boutins. Rapide, hein.
Et non. Dans des loups boutins,
s'il vous plaît.
Glow up.
Cela dit, elle a fait ce qu'elle voulait faire et elle a le droit.
Ouais,
elle a le droit.
Tout à fait.
Enfin bref. Et donc moi, ce que je vais vraiment pas être glamour, hein. Ce à quoi je ne m'attendais pas après l'accouchement, c'est les hémorroïdes. J'ai été terriblement choquée par ça. Personne, enfin, j'en avais entendu parler.
Moi aussi, mais c'est vrai qu'on n'en parle jamais.
Hein.
Nous, Nadia, qui avons fait quand même un certain nombre d'émissions sur le sujet, on n'a jamais parlé des hémorroïdes.
Bah, voilà, c'est une exclue.
Oui, c'est un thème d'émission. Moi, j'en parle sans aucun problème. Hein.
C'est un thème
d'émission, oui. Mais je trouve génial que Nadia le dépose comme ça. Tranquillou.
Non, alors ne croyez pas que je fais ça sans difficulté, parce que ça touche à mon sexapile quand même. C'est très important. Non, mais de toute façon, à partir du moment où ça a été dit devant mon mec, il y a un moment, il le sait, hein, donc c'est pas grave. Mais je me souviens vraiment qu'après l'accouchement, je me suis dit, personne m'a dit. Et je me souviendrai toujours de la sage-femme qui m'a dit, ah ouais, vous avez un bel œdème, hein. Et je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est pas possible, ça ne partira jamais. C'est parti, heureusement. Waouh! J'aurais aimé qu'on me prévienne. En plus, ça n'arrive pas à toutes les femmes, hein, donc n'ayez pas peur. Mais voilà, j'aurais aimé qu'on me prévienne vraiment là-dessus.
D'accord. Et est-ce qu'ensuite, maintenant, vous allez faire plus de vidéos peut-être concernant la reprise de la sexualité et de la maternité?
Alors, je fais quelques vidéos sur la maternité, la parentalité. Au niveau de la reprise de la sexualité, je pense que je vais attendre un petit peu, tout simplement parce que j'ai besoin moi-même de vivre ces choses-là et de prendre du recul par rapport à tout ça. Pardon. Pour pouvoir en parler réellement, parce que quand on est en plein dedans, c'est difficile d'avoir vraiment un point de vue sur les choses.
Un bon recul, oui.
Voilà, exactement. Donc oui, évidemment, surtout que c'est de toute façon, à partir du moment où on parle de cul, il y a du monde, hein. Donc c'est vraiment une vidéo que j'ai envie de faire, mais pas tout de suite, parce que j'ai besoin avant de prendre plus de recul.
C'est toujours vrai, ça, ce que vous venez de dire, à partir du moment où on parle de cul, il y a tout le monde, ou finalement, on est face à des gens qui sont de plus en plus prudes et qui... ça reste une valeur d'appel.
Pourquoi on ferait face à des gens qui sont de plus en plus prudes?
Les enquêtes disent déjà que les nouvelles générations sont moins intéressées par les choses de la sexualité que les précédentes, déjà.
Ils vont moins sur les sites porno?
Ah non, alors ça, c'est pas une question de moins sur les sites porno.
Ah bah, enfin moi j'englobe les sexualités enfin j'englobe tout ça dedans. Peut-être que ah oui, il me semble avoir lu quelque chose comme quoi les jeunes font moins l'amour qu'avant, voilà. Notamment entre autres à cause des écrans, le fameux Netflix and chill. En fait, c'est juste Netflix et dodo. Je sais pas si on a le droit de dire des marques. Amazon c'est super aussi, voilà. Comme ça tout le monde.
Comme ça, il y aura ça, pas le de concurrence. CSA, nous ne tournerons pas dessus. Ouais.
Voilà. Oui, je pense que quand on parle de cul, il y a du monde, mais quand on en parle de façon intéressante. C'est-à-dire que, bon, pour raconter l'histoire de Jean Banlaire de telle et telle personne, je pense que tout le monde s'en fout. Enfin, ça peut intéresser certaines personnes. En revanche, et j'en ai fait presque mon fonds de commerce, quand on donne de réels conseils pour aider les gens à se sentir mieux, à évoluer, ben ouais, il y a toujours du monde, en fait. Mmh. Je pense, hein.
Bien.
À partir du moment où, parce que vous avez tout à fait raison, Philippe. Effectivement, il y a certaines enquêtes qui ont démontré que les jeunes faisaient de moins en moins l'amour. D'ailleurs, on a parlé de fictosexualité, hein, donc c'est que il y a un phénomène aussi, alors qui est encore très très marginal, mais de jeunes voilà qui vivent leur sexualité finalement fantasmatique, de façon imaginaire et pas du tout incarnée. C'est la question du corps en réalité. Finalement, on en revient toujours à la base, et ça vous le dites aussi hein, dans votre livre, c'est le rapport que l'on a à son propre corps, au corps de l'autre, à l'altérité. C'est toutes ces questions finalement qui font que ça finit de toute façon quand même par intéresser, parce que ça nous renvoie à la représentation que l'on a nous-mêmes de nous-mêmes.
Exactement, ça nous renvoie à nous, et les gens aiment parler d'eux-mêmes, et moi la première.
Bien. Et vous parlez de vous et des autres dans votre livre, voilà, ça s'appelle « Parlons cash », les réponses à toutes les questions que tu te poses sur le sexe. L'éditeur, c'est Larousse, merci Nadia d'avoir été avec nous.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Voilà, on vous suit sur votre chaîne YouTube « Utile et futile ». Nadia, on vous retrouve mardi prochain.
Plaisir.
Et vous pourrez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et voir la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM.
Et, ben voilà.
Et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Passez une belle journée et santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.